Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre. Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Je vous propose aujourd'hui la suite de mon adaptation de L'Amant de Marguerite Duras. Le petit frère est mort en décembre 1942 sous l'occupation japonaise. J'avais quitté Saïgon après mon deuxième baccalauréat en 1931. Il m'a écrit une seule fois en 10 ans, sans que je sache jamais pourquoi. La lettre était convenue, recopiée, sans faute, calligraphiée. Il me disait qu'ils allaient bien, que l'école marchait. C'était une longue lettre de 2 pages pleines. J'ai reconnu son écriture d'enfant. Il me disait aussi qu'il avait un appartement, une auto, il disait la marque, qu'il avait repris le tennis, qu'il était bien, que tout était bien, qu'il m'embrassait comme il m'aimait, très fort. Il ne parlait pas de la guerre ni de notre frère aîné. Je parle souvent de mes frères comme d'un ensemble, comme elle le faisait, elle, notre mère. Je dis « mes frères ». Elle aussi, au dehors de la famille, elle disait « mes fils ». Elle a toujours parlé de la force de ses fils de façon insultante. Pour le dehors, elle ne détaillait pas. Elle ne disait pas que le fils aîné était beaucoup plus fort que le second. Elle disait qu'il était aussi fort que ses frères, les cultivateurs du Nord. Elle était fière de la force de ses fils comme elle l'avait été de celle de ses frères. Comme son fils aîné, elle dédaignait les faibles. De mon amant de Cholène, elle disait comme le frère aîné. Je n'écris pas ces mots. C'étaient des mots qui avaient trait aux charognes que l'on trouve dans les déserts. Je dis « mes frères » parce que c'était ainsi que je disais moi aussi. C'est après que j'ai dit autrement, quand le petit frère a grandi et qu'il est devenu martyr. Non seulement aucune fête n'est célébrée dans notre famille, pas d'arbre de Noël, aucun mouchoir brodé, aucune fleur, jamais. Mais aucun mort non plus, aucune sépulture, aucune mémoire, elle seule. Le frère aîné restera un assassin. Le petit frère mourra de ce frère. Moi, je suis partie, je me suis arrachée. Jusqu'à sa mort, le frère aîné l'a eu pour lui seul. À cette époque-là, de Cholène, de l'image, de l'amant, ma mère a un sursaut de folie. Elle ne sait rien de ce qui est arrivé à Cholène. Je vois qu'elle m'observe, qu'elle se doute de quelque chose. Elle connaît sa fille, cet enfant. Il flotte autour de cet enfant depuis quelque temps un air d'étrangeté, une réserve, dirait-on, récente, qui retient l'attention. Sa parole est plus lente encore que d'habitude, et elle, si curieuse de tout, elle est distraite. Son regard a changé. Elle est devenue spectatrice de sa mère même, du malheur de sa mère. On dirait qu'elle assiste à son événement. L'épouvante soudaine dans la vie de ma mère. Sa fille court le plus grand danger, celui de ne jamais se marier, de ne jamais s'établir dans la société, d'être démunie devant celle-ci, perdue, solitaire. Dans des crises, ma mère se jette sur moi. Elle m'enferme dans la chambre, elle me bat à coups de poing, elle me gifle, elle me déshabille, elle s'approche de moi, elle sent mon corps, mon linge, elle dit qu'elle trouve le parfum de l'homme chinois, elle va plus avant, elle regarde s'il y a des taches suspectes sur le linge et elle hurle, la ville à l'entendre, que sa fille est une prostituée, qu'elle va la jeter dehors, qu'elle désire la voir crever et que personne ne voudra plus d'elle, qu'elle est déshonorée, une chienne vaut davantage. Et elle pleure en demandant ce qu'elle peut faire avec ça, sinon la sortir de la maison pour qu'elle n'empuantisse plus les lieux. Derrière les murs de la chambre fermée, le frère. Le frère répond à la mère, il lui dit qu'elle a raison de battre l'enfant. Sa voix est feutrée, intime, caressante. Il lui dit qu'il leur faut savoir la vérité, à n'importe quel prix. Il leur faut la savoir pour empêcher que cette petite fille ne se perde, pour empêcher que la mère en soit désespérée. La mère frappe de toutes ses forces. Le petit frère crie à la mère de la laisser tranquille. Il va dans le jardin, il se cache, il a peur que je sois tué, il a peur, il a toujours peur de cet inconnu, notre frère aîné. La peur du petit frère calme la mère. Elle pleure sur le désastre de sa vie, de son enfant déshonoré. Je pleure avec elle. Je mens. Je jure sur ma vie que rien ne m'est arrivé. Rien, même pas un baiser. Comment veux-tu, je dis, avec un Chinois, comment veux-tu que je fasse ça avec un Chinois, si laid, si malingre? Je sais que le frère aîné est rivé à la porte, il écoute, il sait ce que fait ma mère, il sait que la petite est nue et frappée, il voudrait que ça dure encore et encore jusqu'au danger. Ma mère n'ignore pas ce dessein de mon frère aîné, obscur, terrifiant. Nous sommes encore très petits. Régulièrement, des batailles éclatent entre mes frères, sans prétexte apparent, sauf celui classique du frère aîné qui dit au petit « Sors de là, tu gênes ». Aussitôt dit, ils frappent. Ils se battent sans un mot. On entend seulement leur souffle, leurs plaintes, le bruit sourd des coups. Ma mère, comme en toutes circonstances, accompagne la scène d'un opéra de cris. Ils sont doués de la même faculté de colère, de ces colères noires, meurtrières, qu'on n'a jamais vues ailleurs que chez les frères, les sœurs, les mères. Le frère aîné souffre de ne pas faire librement le mal, de ne pas régenter le mal, pas seulement ici, mais partout ailleurs. Le petit frère d'assister impuissant à cette horreur, cette disposition de son frère aîné. Quand il se battait, on avait une peur égale de la mort pour l'un et pour l'autre. La mère disait qu'ils s'étaient toujours battus, qu'ils n'avaient jamais joué ensemble, jamais parlé ensemble, que la seule chose qu'ils avaient en commun, c'était elle, leur mère, et surtout cette petite sœur, rien d'autre que le sang. Je crois que du seul enfant aîné, ma mère disait « mon enfant ». Elle l'appelait quelquefois de cette façon. Des deux autres, elle disait « les plus jeunes ». De tout cela, nous ne disions rien à l'extérieur. Nous avions d'abord appris à nous taire sur le principal de notre vie, la misère. Et puis surtout le reste aussi. Les premiers confidents, le mot paraît démesuré, ce sont nos amants, nos rencontres en dehors des postes, dans les rues de Saïgon d'abord, et puis dans les paquebots de ligne, les trains, et puis partout. Ma mère, ça l'apprend tout à coup, vers la fin de l'après-midi. Surtout à la saison sèche. Elle fait laver la maison de fond en comble pour nettoyer, elle dit, pour assainir, rafraîchir. La maison est bâtie sur un terre-plein qui l'isole du jardin, des serpents, des scorpions, des fourmis rouges, des inondations du Mékong, de celles qui suivent les grandes tornades de la mousson. Cette élévation de la maison sur le sol permet de la laver à grands seaux d'eau, à la baigner tout entière comme un jardin. Toutes les chaises sont sur les tables, toute la maison ruisselle, le piano du petit salon a les pieds dans l'eau, l'eau descend par les perrons, envahit le préau vers les cuisines. Les petits boys sont très heureux, on est ensemble avec les petits boys, on s'asperge, et puis on savonne le sol avec du savon de Marseille. Tout le monde est pieds nus, la mère aussi, la mère rit, la mère n'a rien à dire contre rien. La maison tout entière embaume, elle a l'odeur délicieuse de la terre mouillée après l'orage. C'est une odeur qui rend fou de joie, surtout quand elle est mélangée à l'autre odeur, celle du savon de Marseille, celle de la pureté, de l'honnêteté, celle du linge, celle de la blancheur, celle de notre mère, de l'immensité de la candeur de notre mère. L'eau descend jusque dans les vallées. Les familles des boys viennent, les visiteurs des boys aussi. Les enfants blancs des maisons voisines. La mère est très heureuse de ce désordre. La mère peut être très très heureuse quelquefois. Le temps d'oublier, celui de laver la maison peut convenir pour le bonheur de la mère. La mère va dans le salon, elle se met au piano, elle joue les seuls airs qu'elle connaisse par cœur, qu'elle a appris à l'école normale. Elle chante, Quelquefois elle joue, elle rit. Elle se lève et elle danse tout en chantant. Et chacun pense, et elle aussi, la mère, que l'on peut être heureux dans cette maison défigurée qui devient soudain un étang, un champ au bord d'une rivière, un gué, une plage. Ce sont les deux plus jeunes enfants, la petite fille et le petit frère, qui les premiers se souviennent. Ils s'arrêtent de rire tout à coup, et ils vont dans le jardin où le soir vient. Je me souviens à l'instant même où j'écris que notre frère aîné n'était pas à Vinelongue quand on lavait la maison à Grandeau. Il était chez notre tuteur, un prêtre du village, dans le Lot-et-Garonne. À lui aussi, il arrivait de rire parfois, mais jamais autant qu'à nous. J'oublie tout, j'oublie de dire ça, qu'on était des enfants rieurs, mon petit frère et moi, rieurs à perdre le souffle, la vie. Je vois la guerre sous les mêmes couleurs que mon enfance. Je confonds le temps de la guerre avec le règne de mon frère aîné. C'est aussi sans doute parce que c'est pendant la guerre que mon petit frère est mort, le cœur, comme j'ai dit déjà, qui avait cédé, laissé. Le frère aîné, je crois bien ne l'avoir jamais vu pendant la guerre. Déjà, il ne m'importait plus de savoir s'il était vivant ou mort. Je vois la guerre, comme lui était, partout se répandre, partout pénétrer, voler, emprisonner, partout être là, à tout mélanger, mêler, présente dans le corps, dans la pensée, dans la veille, dans le sommeil, tout le temps, en proie à la passion saoulante d'occuper le territoire adorable du corps de l'enfant, du corps des moins forts, des peuples vaincus, cela parce que le mal est là, aux portes, contre la peau.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Nous retournons à la garçonnière. Nous sommes des amants. Nous ne pouvons pas nous arrêter d'aimer. Parfois, je ne rentre pas à la pension. Je dors près de lui. Je ne veux pas dormir dans ses bras, dans sa chaleur. Mais je dors dans la même chambre, dans le même lit. Quelquefois, je manque le lycée. Nous allons manger dans la ville la nuit. Il me douche, il me lave, il me rince, il adore. Il me farde et il m'habille. Il m'adore. Je suis la préférée de sa vie. Il vit dans l'épouvante que je rencontre un autre homme. Moi, je n'ai peur de rien de pareil, jamais. Il éprouve une autre peur aussi, non parce que je suis blanche, mais parce que je suis si jeune qu'il pourrait aller en prison si on découvrait notre histoire. Il me dit de continuer à mentir à ma mère et surtout à mon frère aîné, de ne rien dire à personne. Je continue à mentir. Je ris de sa peur. Je lui dis qu'on est beaucoup trop pauvre pour que la mère puisse encore intenter un procès, que d'ailleurs, tous les procès qu'elle a intentés, elle les a perdus, ceux contre le cadastre, ceux contre les administrateurs, contre les gouverneurs, contre la loi. Elle ne sait pas les faire, garder son calme, attendre, attendre encore. Elle ne peut pas. Elle crie et elle gâche ses chances. Celui-là, ce serait pareil. Pas la peine d'avoir peur. Il l'accompagne à la pension dans la limousine noire. Il s'arrête un peu avant l'entrée pour qu'on ne le voie pas. C'est la nuit. Elle descend, elle court, elle ne se retourne pas sur lui. De le portail passé, elle voit que la grande cour de récréation est encore éclairée. Dès qu'elle débouche du couloir, elle la voit, elle, qui l'attendait, déjà inquiète, droite, sans sourire aucun. Elle lui demande « Où étais-tu ?» Elle dit « Je ne suis pas rentrée dormir. » Elle ne dit pas pourquoi, et Hélène Lagonel ne le lui demande pas. Elle enlève le chapeau rose et défait ses nattes pour la nuit. « Tu n'es pas allée au lycée non plus ?»« Non plus. » Hélène dit qu'ils ont téléphoné, c'est comme ça qu'elle le sait, qu'il lui faut aller voir la surveillante générale. Il y a beaucoup de jeunes filles dans l'ombre de la cour, elles sont toutes en blanc. Il y a des grandes lampes dans les arbres. Certaines salles d'études sont encore éclairées. Il y a des élèves qui travaillent encore, d'autres qui restent dans les classes pour bavarder ou jouer aux cartes ou chanter. Il n'y a pas d'horaire pour le coucher des élèves. La chaleur est telle pendant le jour. On laisse courir le soir un peu comme on veut, comme les jeunes surveillantes veulent. Nous sommes les seules blanches de la pension d'État. Il y a beaucoup de métisses. La plupart ont été abandonnés par leurs pères, soldats ou marins, ou petits fonctionnaires des douanes, des postes, des travaux publics. La plupart viennent de l'assistance publique. Il y a quelques carteronnes aussi. Ce que croit Hélène Lagonel, c'est que le gouvernement français les élève pour en faire des infirmières dans les hôpitaux, ou bien des surveillantes dans les orphelinats, les léproseries, les hôpitaux psychiatriques. Hélène Lagonel croit qu'on les envoie aussi dans les lazarets de colériques et de pestiférés. C'est ce que croit Hélène Lagonel, et elle pleure parce qu'elle ne veut d'aucun de ces postes-là. Elle parle toujours de se sauver de la pension. Je suis allée voir la surveillante de service. C'est une jeune femme métisse, elle aussi, qui nous regarde beaucoup, Hélène et moi. Elle dit « Vous n'êtes pas allée au lycée et vous n'avez pas dormi ici cette nuit. Nous allons être obligés de prévenir votre mère. » Je lui dis que je n'ai pas pu faire autrement, mais qu'à partir de ce soir, dorénavant, j'essaierai de revenir chaque soir dormir à la pension, que ce n'est pas la peine de prévenir ma mère. La jeune surveillante me regarde et me sourit. Je recommencerai, ma mère sera prévenue, elle viendra voir la directrice du pensionnat et lui demandera de me laisser libre le soir, de ne pas contrôler les heures auxquelles je rentre, de ne pas me forcer non plus à aller en promenade le dimanche avec les pensionnaires. Elle dit, c'est une enfant qui a toujours été libre, sans ça elle se sauverait. Moi-même, sa mère, je ne peux rien contre ça. Si je veux la garder, je dois la laisser libre. La directrice a accepté parce que je suis blanche et que pour la réputation du pensionnat, dans la masse des métisses, il faut quelques blanches. Ma mère a dit aussi que je travaillais bien au lycée tout en étant aussi libre, et que ce qui lui était arrivé avec ses fils était si terrible, si grave, que les études de la petite, c'était le seul espoir qui lui restait. La directrice m'a laissé habiter le pensionnat comme un hôtel. Bientôt, j'aurai un diamant au doigt des fiançailles. Alors les surveillantes ne me feront plus de remarques. On se doutera bien que je ne suis pas fiancée, mais le diamant vaut très cher. Personne ne doutera qu'il est vrai. Et personne ne dira plus rien à cause de ce prix du diamant qu'on a donné à la très jeune fille. Je reviens près d'Hélène Lagonnel. Elle est allongée sur un banc et elle pleure parce qu'elle croit que je vais quitter le pensionnat. Je m'assieds sur le banc. Je suis exténuée par la beauté du corps d'Hélène Lagonnel allongée contre le mien. Ce corps est sublime, libre sous la robe, à portée de main. Les seins sont comme je n'en ai jamais vu. Je ne les ai jamais touchés. Elle est impudique, Hélène Lagonnel. Elle ne se rend pas compte. Elle se promène toute nue dans les dortoirs. Ce qu'il y a de plus beau de toutes les choses données par Dieu, c'est ce corps d'Hélène Lagonnel, incomparable, cet équilibre entre la stature et la façon dont le corps porte les seins, en dehors de lui, comme des choses séparées. Rien n'est plus extraordinaire que cette rotondité extérieure des seins portés, cette extériorité tendue vers les mains. Même le corps de petit coulis de mon petit frère disparaît face à cette splendeur. Les corps des hommes ont des formes avares, internées. Elles ne s'abîment pas non plus comme celles d'Hélène Lagonnel qui, elle, ne dure jamais. Un été peut-être, à bien compter, c'est tout. Elle vient des hauts plateaux de Dalat, Hélène Lagonnel. Son père est un fonctionnaire des postes. Elle est arrivée en pleine année scolaire il y a peu de temps. Elle a peur. Elle se met à côté de vous, elle reste là à ne rien dire, souvent à pleurer. Elle a le teint rose et brun de la montagne, on le reconnaît toujours ici où tous les enfants ont la pâleur verdâtre de l'anémie, de la chaleur torride. Hélène Lagonnel ne va pas au lycée. Elle ne sait pas aller à l'école. Hélène, elle. Elle n'apprend pas. Elle ne retient pas. Elle fréquente les cours primaires de la pension, mais ça ne sert à rien. Elle pleure contre mon corps et je caresse ses cheveux, ses mains. Je lui dis que je resterai avec elle au pensionnat. Elle ne sait pas qu'elle est très belle, Hélène, elle. Ses parents ne savent pas quoi en faire, ils cherchent à la marier au plus vite. Elle trouverait tous les fiancés qu'elle veut, Hélène Lagonnel, mais elle ne les veut pas. Elle ne veut pas se marier, elle veut retourner avec sa mère. Elle, Hélène, elle, Hélène Lagonnel. Elle fera finalement ce que sa mère voudra. Elle est beaucoup plus belle que moi, que celle-ci au chapeau de clown chaussé de lamé. Infiniment plus mariable qu'elle. Hélène Lagonnel, elle, on peut la marier. L'établir dans la conjugalité, l'effrayer. Lui expliquer ce qui lui fait peur et qu'elle ne comprend pas. Lui ordonner de rester là, d'attendre. Hélène Lagonnel, elle, elle ne sait pas encore ce que je sais. Elle, elle a pourtant 17 ans. C'est comme si je le devinais. Elle ne saura jamais ce que je sais. Le corps d'Hélène Lagonnel est lourd, encore innocent. La douceur de sa peau est telle, celle de certains fruits. Elle est au bord de ne pas être perçue, illusoire un peu. C'est trop. Hélène Lagonnel donne envie de la tuer. Elle fait se lever le songe merveilleux de la mettre à mort de ses propres mains. Ses formes de fleurs de farine, elle les porte sans savoir aucun. Elle montre ces choses pour les mains les pétrir, pour la bouche les manger, sans les retenir, sans connaissance d'elles, sans connaissance non plus de leur fabuleux pouvoir. Je voudrais pouvoir manger les seins d'Hélène Lagonnel, comme lui mange les seins de moi dans la chambre de la ville chinoise où je vais chaque soir approfondir la connaissance de Dieu. Être dévorée de ces seins de fleurs de farine que sont les siens. Je suis exténuée du désir d'Hélène Lagonnel. Je suis exténuée de désir. Je veux emmener avec moi Hélène Lagonnel, là où chaque soir, les yeux clos, je me fais donner la jouissance qui fait crier. Je voudrais donner Hélène Lagonelle à cet homme qui fait ça sur moi, qu'il le fasse à son tour sur elle. Ceci en ma présence. Qu'elle le fasse selon mon désir, qu'elle se donne là où moi je me donne. Ce serait par le détour du corps de Hélène Lagonelle, par la traversée de son corps, que la jouissance m'arriverait de lui, alors définitive. De quoi en mourir. Je la vois comme étant de la même chair que cet homme de Cholène, mais dans un présent irradiant, solaire, innocent, dans une éclosion répétée d'elle-même, à chaque geste, à chaque larme, à chacune de ses failles, à chacune de ses ignorances. Hélène Lagonelle, elle est la femme de cet homme de peine qui me fait la jouissance si abstraite, si dure, cet homme obscur de Cholène, de la Chine. Hélène Lagonelle est de la Chine. Je n'ai pas oublié Hélène Lagonelle. Je n'ai pas oublié cet homme de peine. Lorsque je suis partie, lorsque je l'ai quitté, je suis restée 2 ans sans m'approcher d'aucun autre homme. Mais cette mystérieuse fidélité devait être à moi-même. Je suis encore dans cette famille, c'est là que j'habite, à l'exclusion de tout autre lieu. C'est dans son aridité, sa terrible dureté, sa malfaisance que je suis le plus profondément assurée de moi-même, au plus profond de ma certitude essentielle, à savoir que plus tard, j'écrirai. C'est là le lieu où plus tard me tenir, une fois le présent quitté, à l'exclusion de tout autre lieu. Les heures que je passe dans la garçonnière de Cholène font apparaître ce lieu-là dans une lumière fraîche, nouvelle. C'est un lieu irrespirable, il côtoie la mort, un lieu de violence, de douleur, de désespoir, de déshonneur. Et tel est le lieu de Cholène, de l'autre côté du fleuve, une fois le fleuve traversé. Je n'ai pas su ce qu'est devenue Hélène Lagonelle, si elle est morte. C'est elle qui est partie la première de la pension, bien avant mon départ pour la France. Elle est retournée à Dalat. C'était sa mère qui lui avait demandé de revenir à Dalat. Je crois me souvenir que c'était pour la marier, qu'elle devait rencontrer un nouvel arrivant de la métropole. Peut-être que je me trompe, que je confonds ce que je croyais qui arriverait à Hélène Lagonelle avec ce départ obligé, réclamé par sa mère. C'était l'amant. Roman de Marguerite Duras, publié aux éditions de Minuit. Lors de la pause musicale, nous avons écouté Stormy Weather, composé par Harold Arlen, interprété par Art Tatum au piano. Cette émission était produite par Frédéric Guyon. Je vous propose de vous retrouver samedi prochain pour la suite de ce roman d'Envoi au chapitre et je vous souhaite une agréable semaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.